Salut, ici Amélie Larocque et vous écoutez le 105.1 Choc FM, la meilleure radio francophone 100% Toronto.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Et je suis Guillaume Laurin au micro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Salle de presse, Les aînés vous informent, notre cher ami Anka Vatavou, qui interview Monsieur Jean-François Pinsonneau. Alors, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Ravi de vous retrouver derrière cette table pour évoquer ensemble eh bien, des questions qui sont parfois un petit peu délicates. On en parlait tout à l'heure hors onde, des questions notamment savoir quoi faire, comment s'y prendre lorsqu'on a une personne aînée qui commence à être dépendante et on a parfois besoin d'assistance. Lorsqu'on a un parent notamment qui vieillit, qui a besoin d'aide, on doit parfois prendre du temps, on doit parfois même arrêter de travailler. Ce sont des questions délicates qui méritent d'être évoquées. Anka, est-ce que tu veux introduire ton invité aujourd'hui?
Ah oui, premièrement, un grand merci à la radio Choc FM pour me donner encore une fois l'occasion de discuter un sujet d'actualité dans la série d'émissions Salle de presse. Nos aînés vous informent. Choc FM est unique car elle met l'emphase sur des enjeux sociaux qui sont négligés ou juste effleurés par d'autres médias. Choc FM est la voix des plus faibles dans la société, les âgés.
C'est ça, c'est ce qu'on essaye de faire et en particulier dans le cadre de cette émission.
La dernière fois, nous avons discuté quels sont les types de contributions que les aînés peuvent apporter à la société.
Tout à fait.
Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un autre sujet très important dans la vie des aînés, l'importance de la famille pendant leurs dernières années. Certains d'entre eux n'ont pas de famille et c'est vraiment triste. Je vous donne un exemple. J'ai une patiente qui s'appelle Teresa. Il y a 2 semaines, elle vivait avec sa sœur Gloria. Teresa a 93 ans, Gloria avait 87 ans. Mm-hmm. Gloria était née avec la scoliose et sa sœur a pris soin d'elle toute sa vie.
Alors la scoliose, donc c'est un problème de la colonne vertébrale. Hein?
C'est ça. Mm-hmm. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a eu aucun enfant. Il y a 2 semaines, Gloria a eu une attaque vasculaire cérébrale. Elle est décédée le lendemain. Bien que Teresa ait pris soin de Gloria toute sa vie, elle se plaignait que tout ce qu'elle faisait pour sa sœur, elle n'était jamais contente. Mais elle se sent maintenant seule, confuse. Et surtout, sa sœur lui manque.
Bien sûr, bien sûr.
Elle n'a pas d'autres membres de famille, très peu d'amis, et ils ont tous son âge. Comme j'ai dit, je voudrais discuter de l'importance de la famille, et j'ai invité une très bonne amie à me joindre ici, Monsieur Jean-François Pinsonneau. Pourquoi lui? Il y a 10 ans, nous avons travaillé pour la même compagnie, la SCHL, lui à Ottawa, moi à Toronto.
Alors, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ce que c'était que la SCHL?
C'est la Société canadienne d'hypothèque et logement.
D'accord.
À un moment donné, j'ai entendu qu'il s'était occupé de sa mère pendant 14 années, après qu'elle a eu subi des problèmes cardiaques. Nous avons reconnecté après quelques années et j'ai découvert l'histoire de son absence. Aujourd'hui, j'aimerais connaître le détail de son expérience. Jean-François, bonjour.
Bonjour, Anka.
Merci d'être venu à Toronto pour participer à cette émission de radio. Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs?
Oui, bien, ça me fait plaisir. Alors, d'abord, merci beaucoup à Choc FM et merci encore de m'avoir invité. Mon nom est Jean-François Pinsonneau et j'étais l'aidant principal familial de ma mère pendant 14 ans. 10 ans à sa demande dans sa propre maison. Et durant ces 10 ans, régulièrement, je l'invitais à venir vivre avec moi, mais elle me disait toujours « Ah, je suis pas prête. » Et puis, 10 ans plus tard, Elle m'a appelé à un moment donné, elle m'a dit « Est-ce que l'offre est encore bonne? » Alors, j'ai dit « Bien, certain. Quand arrives-tu? » Alors, c'était au mois d'avril. Alors, elle dit « Bien, seulement à l'automne, je vais passer mon dernier été à la campagne. » C'est là qu'on habitait. On avait une ferme à l'époque. Et puis, elle voulait passer son dernier été. J'ai su par la suite que... Au moment où elle a quitté, le 30 octobre 1992, ça faisait exactement 50 ans qu'elle habitait dans cette maison.
Ah oui, alors c'était certainement aussi quelque chose de symbolique pour elle. Oui.
Ouais.
Donc là, à la fin, elle vivait seule.
Oui, mon père était décédé en 80 et elle est devenue malade en 82. Elle est hospitalisée à l'Institut neurologique de Montréal. Et c'est là qu'elle avait, elle aussi, des arrêts vasculaires, des arrêts cardiaques vasculaires. Et elle était à l'hôpital pendant quasiment 2 mois. D'ailleurs, c'était... Moi, j'habitais à Montréal et je me rendais à chaque repas parce qu'il y avait une grève des infirmiers et des infirmières. Et je la faisais manger parce qu'elle n'était pas capable de manger seule.
Wow.
Et puis, une fois qu'elle était capable, ma famille voulait la mettre dans un foyer, mais moi, j'avais été malade alors de 12 ans, pendant quasiment 2 ans. Et elle s'est occupée de moi, en plus s'occuper du restant de la famille, parce que moi, je suis le plus jeune de la famille, le cadet, et aussi de s'occuper de la ferme avec mon père, etc. Et puis, alors, je me suis toujours dit que le jour qu'elle aura besoin de moi, j'y serai.
Alors, c'était comme lui rendre un petit peu le fait qu'elle se soit occupée de vous particulièrement. C'était
ouais.
cette façon de la prendre chez vous. De la prendre
exactement, oui.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que les médecins ont dit au sujet du type de soins dont elle avait besoin?
Étant donné l'ampleur des arrêts vasculaires qu'elle avait, elle n'était plus capable de marcher, elle était très, très faible. Les médecins disaient de la mettre dans un foyer. Malheureusement, mes frères et sœurs étaient d'accord, mais moi, je n'étais pas d'accord. Parce que je trouvais que, pour être très proche de ma mère, je saurais que ce serait sa fin. Et je n'acceptais pas ça. Je n'étais pas prêt à perdre ma mère.
Ouais.
Alors, j'ai insisté. Et alors, lorsqu'elle a été capable de revenir chez elle, à la campagne, on demeurait dans les cantons de l'Est au Québec, j'ai mis en place tout le système, l'infrastructure. J'ai même embauché une dame de compagnie. Ça a pris quelques essais, là, parce qu'on vivait loin à la campagne. Hein. Je veux dire, on était à peu près à 5-6 kilomètres du village, donc ça prenait quelqu'un qui avait une voiture. Alors, ça a pris peut-être là, 3 à 6 mois là, avant de trouver quelqu'un là, qui, aimait la place, qui voulait faire ça, puis que, avec maman aussi, s'adaptait bien. Parce que c'est toujours une question. Souvent, les aînés vont résister
à
l'aide.
Ouais, tout à fait.
Et puis, alors, ça a pris là, en quelques mois. Et puis, éventuellement, on a découvert cette perle qui s'appelait Denise et qui a vécu avec maman pendant... près de 10 ans. Et moi, je descendais, je partais de Montréal, et à toutes les 2 fins de semaine, je descendais dans les cantons de l'Est. J'allais remplacer la dame de compagnie pour qu'elle puisse avoir son week-end de congé. Et je m'occupais de maman, je faisais de la bouffe, j'aime cuisiner. Maman m'avait montré comment cuisiner quand j'avais été malade, donc je suis un chef pour... formelle, mais j'aime cuisiner, j'aime bien manger. Et puis, alors, je m'occupais d'elle, puis on parlait beaucoup. Et puis, ce qu'elle a fait aussi, c'est qu'à un moment donné, vu à sa vision, elle a perdu la vision. Et tout ça, ça l'a rendu le système où son confort a été un peu... touchée.
Oui, ça a dû la rendre encore plus dépendante,
ouais.
Bien sûr.
Puis elle avait des difficultés à marcher parce qu'elle avait des lésions aux jambes, etc. Alors, on a suggéré, on avait une grande maison, 15 pièces, là. Il y avait 7 chambres à coucher au 2e étage. Alors, on a suggéré, elle a accepté qu'on descende sa chambre dans un des 3 salons qu'il y avait au 1er étage. Et on a reconstitué sa chambre là, avec les mêmes couleurs, toutes ses affaires, ses rideaux, etc. Donc, elle n'avait plus besoin de monter les escaliers parce qu'il y avait aussi une salle de bain en bas. au premier étage. Donc, ça l'a permis là, de... Donc là, bon, elle marchait avec une canne, puis bon, Denise était là pour s'occuper d'elle, etc. Puis moi, j'étais là aussi pour m'occuper d'elle à toutes les deux fins de semaine.
Jean-François, cette démarche qui était la vôtre, j'ai envie de vous demander, du point de vue financier, bien sûr, on imagine qu'il s'agit toujours de quelque chose de conséquent, d'un investissement. Et est-ce que vous avez, en particulier pour embaucher cette personne de compagnie, bénéficié d'aide quelconque, gouvernementale, provinciale?
À l'époque, non. Durant les 10 premières années, pendant qu'elle vivait encore au Québec, il n'y avait pas de soutien. Il y avait le soutien médical. Là. Il y avait une infirmière qui venait, si ma mémoire est bonne, une ou deux fois par semaine, parce qu'à cause des lésions sur ses jambes, elle venait changer les pansements. Puis entre-temps, bien, c'était Denise qui changeait les pansements, parce qu'il fallait se changer aux 24 heures. Et puis alors, c'était ma mère surtout qui a couvert ces coûts-là. Ouais. Et puis moi, je comblais les... par en arrière, tranquillement, sans rien dire. Là. Quand j'allais, par exemple, j'arrivais là, avec des sacs et des sacs de bouffe. Et je remplissais le réfrigérateur, les armoires, et puis aussi je faisais la popote toute la fin de semaine pendant que j'étais là, donc ça donnait un petit repos à Denise au début de la semaine, après que moi j'étais parti. Donc les premières années, c'était couvert surtout par ma mère et moi un peu là, par le biais, par en arrière. Lorsqu'elle est arrivée en Ontario, parce qu'en 1992, 10 ans plus tard, elle m'a appelé, elle m'a dit « Est-ce que là, faites en Courbonne? » J'ai dit « Oui, effectivement, j'ai acheté une maison juste à l'est de Ottawa. » Et puis, à l'époque, l'Ontario avait un système de soutien aux aînés à la maison, qui éventuellement a disparu, mais dernièrement, c'est revenu car la province a accepté les budgets fédéraux pour aider les adultes, les aînés qui sont à la maison, pour qu'ils demeurent à la maison le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Alors, durant ces 4 années-là, il y avait à l'époque 3 heures par jour, du lundi au vendredi. Et moi, j'ai ajouté 2 heures de façon à ce que cette dame-là, une autre perle qui s'appelait Donna, qui venait, qui arrivait le matin à 10 heures, qui avait sa propre clé, etc., et puis qui était avec maman jusqu'à 3 heures. Donc, elle était seule le matin pendant à peu près une heure et demie, mais j'avais tout organisé, la cuisine, puis la maison. En tout cas, tout était là, super... c'était des années avant les machines à café qu'on a aujourd'hui, là, mais il y avait à l'époque des petites machines où tu pouvais... Moi, je mettais l'eau, je mettais le café, apaisais le bouton, puis ça lui faisait un café, puis ça s'éteignait tout seul automatiquement.
Programmait tout, oui.
Tout était là, même, c'était au lieu d'être un grille-pain avec les rôtis qui sortent sur la surface, c'était un tiroir. Lorsqu'on ouvrait le tiroir, la porte du grille-pain, le tiroir sortait, donc on n'avait jamais à mettre sa main dans le grille-pain. Alors, toutes sortes de choses là, que j'ai organisées, que j'ai facilitées, parce que, entre autres, des affaires comme le lait, bon, ben, j'achetais seulement des 500 millilitres de lait, parce qu'elle n'était pas capable de soulever soit un litre ou bien un sac.
Adapter la vie et penser à tous les détails de la vie courante pour des gens qui sont effectivement handicapés, malvoyants dans le cadre de votre mère. Jean-François et Anka, on se retrouve juste après une brève pause musicale.
Oui, d'accord, merci.
Merci.
Nous sommes toujours en onde sur le Choc FM. Jean-François, parlez-nous s'il vous plaît du moment où vous avez considéré quitter votre emploi. Et quelle fut la réaction de votre mère?
Alors, il y a eu 2 moments. Le premier moment, c'est lorsqu'elle a demandé de passer les premières 10 années dans sa maison. Et j'ai dit, bon, ben je vais laisser mon emploi, puis je vais venir m'occuper de toi. Puis là, elle m'a regardé avec ses grands yeux, et elle m'a dit, non, et non, et non. C'est-tu clair? Je me souviens encore, ma mère avait la façon de se croiser les bras qui a toujours été à l'inverse de moi. Et c'est évident qu'elle a dit non. Elle a dit, on va organiser ça, tu connais ça, tu vas organiser tout l'environnement pour que je sois confortable, mais tu lâches pas ton emploi, c'est ta carrière, puis, tu sais, pas maintenant. On verra ça plus tard, mais pas maintenant. Alors ça, c'était la première fois. Et puis pendant ces 10 années-là, ben, je me promenais. Là, à un moment donné, j'ai quitté la région de Montréal et je me suis retrouvé dans la région de Ottawa pour des besoins d'emploi. Et là, ben, au lieu de descendre de Montréal, voir maman tous les deux fins de semaine, ben, là, je descendais de Ottawa. J'ai comme ruiné une voiture à toutes les fins de semaine, là, à toutes les deux fins de semaine, mais c'était mon plaisir. Et puis, lorsqu'elle a, en 92, m'a demandé si l'offre était encore bonne, j'ai dit oui. Alors, on s'est organisé, puis j'ai acheté une maison. Elle est arrivée le 2 novembre. Et puis, à ce moment-là, bon, j'avais tout installé, la maison, on avait tout... j'ai pas été capable d'apporter tous les meubles qu'il y avait dans la maison de 15 pièces, parce que je n'étais pas de maison de 15 pièces que j'avais acheté. Alors, j'ai apporté ce qu'il pouvait faire dans cette maison-là. Et puis, un moment est arrivé, c'est installé, etc. Puis même, son première réaction, malgré sa vision, elle avait une vision un peu tunnel, là, comme ça, elle voyait à travers d'une paille, pour boire un breuvage. Et puis, alors, elle rentre, elle enlève son manteau, puis là, elle bougeait la tête, parce que c'était la façon de voir tout ce qui se passait. Puis à un moment donné, elle se retourne vers ma sœur, qui l'avait amenée là, parce qu'elle avait passé quelques jours chez ma sœur, qui habite aussi à Ottawa, pendant qu'on déménageait ses meubles. Elle se tourne vers ma sœur et moi et dit, « Mais pourquoi vous m'avez ramené à Cowansville, qui était le village d'où nous vivions, où on avait habité? » Alors, on l'a regardé, on dit, « Ben non, c'est pas Cowansville, t'es à Carlsbad Springs, juste un peu à l'est de Ottawa. » On avait organisé la maison avec ses meubles. Donc, ce qu'elle voyait avec sa vision limitée, c'était ses meubles. Mmh. Puis qu'elle n'avait pas fait immédiatement le lien.
Donc, vous aviez recréé tout son environnement, les choses qu'elle connaissait.
Oui. Jusqu'à un moment donné, elle regarde, elle dit, « Ah, là, je sais que je ne suis pas dans mon ancienne maison parce qu'il y a un foyer. J'ai voulu toujours avoir un foyer, mais ton père n'en a jamais construit un. Mais là, ici, il y en a un. » Ben, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai acheté la maison, maman. Je sais que tu voulais un foyer.
Est-ce que l'adaptation à cette nouvelle vie a été complexe pour elle? Parce qu'on sait que parfois, les personnes aînées n'aiment pas tellement les changements.
Ça a été très facile. Moi-même, je m'attendais, en tant qu'instructeur, formateur, de faire souvent des sessions sur la gestion du changement. Puis je m'attendais à des réactions assez particulières. Mais au contraire, parce que c'était son fauteuil, son lit, son édredon, ses rideaux, sa télévision, malgré qu'elle ne pouvait pas voir, mais elle la reconnaissait quand même, la salle à manger, son réfrigérateur, tout c'était ses affaires. Mm. Donc, c'était là vraiment... j'avais pris quelques jours de congé, puis j'ai passé quelques jours avec elle. La première journée, ben, après la première soirée, là, on a soupé, etc. Le lendemain, ben, là, on s'est promené, on a visité les différentes pièces à la lueur du jour. Et puis, le deuxième jour, le lendemain, je l'ai laissé faire. J'ai resté là, mais je l'ai laissé faire sa routine. Et c'est comme ça avait toujours habité là.
Wow.
Encore aujourd'hui, là, j'ai des frissons quand je pense à ça, là, que comment est-ce que ce moment s'est adapté. Faut dire aussi que maman avait quitté avec mon père et mes deux sœurs aînées Montréal en 1942 après le décès de leur troisième enfant, qui était un garçon. Et elle avait quitté Montréal et ils sont allés vivre à Cowansville pendant 9 ans dans une maison sans électricité. Et dont les chemins étaient fermés durant les saisons là, d'automne, hiver et printemps. Là. Il n'y avait pas de charrette, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas quoi que ce soit. On allait à l'école à pied. Elle avait vécu un gros changement dès cette époque-là. Donc, changer de maison, mais que ce soit son lit, son fauteuil préféré, ça s'est passé là, très, très bien.
En cas, est-ce que vous avez cette expérience qu'évoque Jean-François Pinson avec sa mère? Est-ce que vous avez beaucoup de gens que vous rencontrez, en particulier dans votre domaine professionnel à Silver Home Care, qui partagent cette expérience, le fait de prendre quelqu'un de sa famille chez soi comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup?
Pas encore avec mes patients existants, mais c'est exactement la même chose que j'ai appris pendant mes cours sur Alzheimer et les personnes âgées. J'ai pris beaucoup de cours de certification avec l'Université de Tasmanie. Et c'était exactement la même chose que Jean-François a dit.
Tout ce qu'il a fait, reconstituer la maison, les mêmes meubles, les mêmes frigos.
Bien sûr. Mais j'ai une question pour toi. D'après ce que je me souviens de vos qualifications dans votre travail précédent, il n'avait rien de commun avec ce qui concerne la prise en charge d'un parent vieillissant. Qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai appris sur le tas, si je peux utiliser l'expression. J'ai lu d'abord, entre le moment où elle a accepté de venir vivre avec moi, qui était au mois d'avril, puis qu'elle est arrivée au début du mois de novembre. À l'époque, on parle là, de plusieurs années, donc il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tous ces systèmes-là. Alors, je suis allé à la bibliothèque et j'ai lu.
Et vous avez trouvé des ouvrages qui vous ont vraiment aidé?
J'ai trouvé différents ouvrages. Pas grand-chose, malheureusement, en français. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais à l'époque, c'était très mince. Et j'ai trouvé différents bouquins qui m'ont aidé à mieux comprendre la perspective d'une personne âgée. Et j'ai eu cette conversation-là avec des collègues. À un moment donné, je parlais avec des collègues, des dames qui étaient mariées, qui avaient des enfants et qui, lorsqu'ils voyageaient comme moi, je voyageais beaucoup à l'époque avant que maman vienne vivre avec moi, ils avaient une compensation par l'employeur pour couvrir les garderies, etc. Et moi, en tant que... plusieurs années plus tard, quand c'était maman qui vivait avec moi, j'ai réduit beaucoup mon voyagement, mais je voyageais quand même à l'occasion. Mais moi, j'avais pas droit à ça, parce que c'était pas un enfant, c'était une adulte. Et j'avais discuté avec mes collègues en disant qu'un enfant qui grandit part de la dépendance et s'en va vers l'indépendance. Un aîné, c'est l'inverse.
C'est tout l'inverse, c'est ça. On ils dit parfois sont, que ouais. les aînés retombent en enfance un petit peu. Hein?
Alors, ma mère est partie d'une dépendance totale après la mort de mon père. Ma mère avait sa voiture, elle voyageait, elle venait nous voir, elle allait voir ses enfants, ses sœurs. Elle se promenait, elle avait sa voiture, elle allait faire ses commissions. Mais après l'avoir perdu la vue, bien là, c'était tout ça, ça a disparu. Et puis, évidemment, bien, tout ça, c'est que ça crée un changement et elle est devenue beaucoup plus dépendante. Et évidemment, bon, bien, les lésions aux chambres, la vision, qui plus tard on a découvert, je pourrais en parler tantôt, le pourquoi de tout ça et comment est-ce que j'étais capable de régler ça. Mais la lecture a été vraiment au départ mon premier endroit là, de trouver de l'information. Mais... à l'époque, on parle aussi de, et c'est encore, je probablement été capable de confirmer ça, c'est plus les filles, les belles-filles, que les fils et les gendres qui s'occupent des aînés.
Statistiquement, c'est plus le cas, oui.
En Amérique du Nord, c'est à peu près un quart, ce sont des hommes, mais ça inclut les époux. Donc, si on enlève le facteur époux, qui est une normalité souvent, là. À ce moment-là, c'est plus chez les dames, les filles, les belles-filles, etc. Alors, j'avais même un peu de résistance. Alors, quand maman est arrivée dans sa nouvelle maison, juste à l'extérieur de Ottawa, avant qu'elle arrive, puis après qu'elle est arrivée, j'ai commencé à aller sonder le terrain des systèmes de services. Et je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de résistance des services parce que la question était « Un homme qui n'est pas le mari s'occupe de sa mère. Y a-t-il anguille sur roche? » Et on m'a posé la question, là. On m'a posé, là, « As-tu un emploi? Combien tu fais par année? As-tu les moyens de t'occuper de ta mère? Qu'est-ce que tu connais là-dedans? » Ça s'apprend. Ouais. OK. Alors, j'ai poursuivi et puis évidemment, j'ai été capable de changer la qualité de vie de maman d'une façon significative parce que moi, je n'ai pas accepté les diagnostics de ces médecins qu'elle avait lorsqu'elle habitait à Cowansville.
Jean-François Pinsonneau, avant de poursuivre avec une nouvelle question de Ankavatavu dans cette émission Salle de presse, on fait une autre courte pause musicale et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans l'émission Salle de presse. Nos aînés vous informent avec Ankavatavu et Jean-François Pinsonneau. Anka, tu travailles à Silver Dome Home Care, si je prononce bien, Silver Dome Home Care. Tu connais Jean-François Pinsonneau depuis très longtemps. Quelle est ta prochaine question pour lui?
J'ai une question très délicate. Et je pense que vous avez eu beaucoup de moments stressants pendant cette période. Êtes-vous confortable de partager avec nous certains moments?
Oui, oui, ça me ferait plaisir parce que je pense que vos auditeurs auraient avantage à réaliser que c'est pas toujours des champs de roses. Il y a des fois que c'est un peu plus compliqué. Comme je parlais il y a quelques instants, quand maman est arrivée, elle avait des lésions aux jambes, elle était aveugle, etc. Alors, moi, j'ai commencé d'abord à trouver un médecin francophone dans la région et qui ont déterminé que elle faisait du diabète et elle n'avait jamais été diagnostiquée durant toutes ces années dans les cantons de l'Est. Alors, et ça expliquait la raison de ses lésions aux jambes. Alors, ils l'ont mis sur des médicaments, et sur une période de quelques mois, les jambes ont guéri, et donc ça l'a amélioré sa mobilité d'une façon assez remarquable. Et son médecin aussi a dit, à un moment donné, il dit, « Moi, je ne suis pas spécialiste pour les yeux, mais je vais vous faire une référence à un ophtalmologiste, parce qu'il y a apparemment quelque chose qui explique pourquoi que sa vision est si limitée. » Puis, évidemment, longue histoire courte, elle avait des cataractes. Alors, ça a été opéré, ça s'est réglé et ça a augmenté sa vision là, de 25-30%. Elle pouvait lire.
Wow.
J'allais chercher des livres à gros caractères à la bibliothèque parce que maman aimait beaucoup lire. Maman était une vorace de la lecture et surtout des choses là, de Agatha et puis Alfred Hitchcock. Puis toutes les affaires là, de suspense, etc. Là, elle était vorace. Alors, c'était vraiment assez spécial. Alors, tout ça a amené que, bon, ben alors, ça a changé. Puis à un moment donné, son âge, lorsqu'elle est arrivée chez moi, elle avait 80 ans. Et maman, toute sa vie, elle avait porté un corset. Depuis qu'elle était mariée avec une brassière assez large, là, si je peux me permettre de dire. Mais ces genres de sous-vêtements-là, ça ne se fait plus. Puis à un moment donné, la madame qui venait tous les jours me laisse une note dans ma chambre que ma mère avait demandé de réparer le corset, mais que c'était irréparable. Ce n'était que du fil maintenant. Là, je veux dire, c'était avec les baleines sur le côté, là, la matière de métal, là, puis des lacets, etc. Alors, j'ai attendu. Puis le samedi matin, je faisais le petit déjeuner, puis là, on est en train de manger. Puis elle me dit, j'ai une question à te poser. J'ai dit oui. Elle dit, on pourrait-tu aller magasiner aujourd'hui? J'ai dit oui, oui. Elle dit, mon corset est fini. Ça me prend d'autres choses. Alors, pas de problème. Donc là, je savais, évidemment, j'avais tout dans ma tête. Alors, on embarquait dans l'auto, puis on est allé. Maman avait toujours allé au même magasin. Maman, vivant la campagne, c'était une femme de catalogue. C'était chez Sears, malheureusement. Aujourd'hui, c'est de moins en moins évident. Alors, on est allé chez Sears, pas loin d'où on habitait, et puis on a fait le tour. Et puis là, j'ai installé maman dans la salle d'essayage. Puis moi, qu'est-ce que je connais là-dedans? Absolument rien. Alors, je me promenais dans l'allée et je prenais des boîtes et des boîtes de différentes grandeurs de gaines et de brassières. Et je me fais interpeller par une des vendeuses qui m'accuse de pas vraiment vouloir les voler. Je lui dis non, c'est pour ma mère. Là, elle dit oui, tout le monde dit ça. Ben, je dis suivez-moi. Non, j'ai pas le temps. Ben, j'ai ôtez-vous dans mon chemin. Alors, moi, je m'en vais à la salle d'essayage. Elle me suit et je la présente à ma mère. Alors, la bouche lui a tout grande ouverte. Elle s'excuse. Et elle a, pendant, je dirais, un bon 40 minutes, essayé en se promenant de gauche à droite sur des boîtes de ci et de ça. Mais maman n'avait pas la force pour mettre les gaines. Puis les brassières, ça prenait une brassière attachée en avant. Puis... Alors ça, à l'époque, aujourd'hui j'en parle, c'est cocasse, c'est drôle. Ouais. C'était pas drôle à l'époque. C'était pas drôle. Alors ça, c'était vraiment là, un coup dur, parce que si j'avais été sa fille, j'aurais pas vécu ça, là. Mm-hmm. Mais j'étais son fils. Alors ça, c'est...
Des anecdotes un petit peu gênantes parfois.
Ouais, pour... à l'époque. On n'en a jamais parlé. Là, tout le monde le sait, là. Tout le monde va le savoir. Mais en tout cas, il y a eu des moments de même. Ou bien donc, à un moment donné aussi, de tristesse et de grands défis, c'est le manque de participation de mes frères et de mes sœurs. Et j'ai réalisé après que j'ai pas assez poussé, j'ai pas assez insisté. J'ai demandé une fois ou deux de l'aide. On m'a dit non, t'as voulu la prendre, prends-la. Si ça marche pas, on va la mettre dans un foyer. Alors, ça, j'ai été très désappointé de cette perspective-là. Mais aujourd'hui, je réalise que je n'ai pas bien formulé mon message et je n'ai pas insisté suffisamment. Et c'est une grande leçon pour moi.
Et est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé par la suite avec vos frères et sœurs ou le reste de la famille?
Pas vraiment. J'ai écrit mes mémoires sur le sujet et... mon frère a acheté une copie du livre. J'ai des neveux et des nièces qui l'ont aussi pris. Ma sœur, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas certain.
Alors voilà, justement, on peut évoquer, puisque vous en parlez, le livre « Lasting Touch » de Jean-François Pinsonneau, qui est donc finalement un retour sur ces 10 années, cette expérience passée aux côtés de votre mère à l'aider, c'est bien
ouais,
ça?
Oui. Les premiers chapitres, c'est surtout les 10 années pendant qu'elle vivait dans sa maison. Mais la majorité du livre, c'est des 4 ans qu'elle a vécu avec moi, parce que là, j'ai toute l'information. On se voyait tous les jours, etc. Alors, tandis que les 10 années, bien, je la voyais seulement aux grandes fêtes, à sa fête, à la fête des mères, toutes les 2 fins de semaine, etc. Alors, je voulais... pour moi, j'avais deux grands objectifs d'écrire mes mémoires. Un, il fallait que je ferme la boucle,
oui,
personnellement. Et le deuxième point était de essayer d'influencer et d'encourager plus de fils et de petits-fils et de neveux et de gendres à, en anglais, je dirais, step up to the plate. Là, vraiment, là...
S'engager. Effort,
ouais. Et c'est possible parce que malgré toutes ces années-là, j'ai réussi à maintenir ma carrière. J'ai eu une carrière brillante en tant que formateur, instructeur, concepteur de cours. Et d'ailleurs, ça continue encore. J'ai pris ma retraite, mais là, il faut que je dise semi-retraité parce que j'en fais encore au niveau universitaire. Et c'est possible. Il faut s'organiser. Il faut avoir du soutien. Et maintenant que l'Ontario a accepté les budgets du fédéral, ben, je pense qu'il y a une autre opportunité qui se présente.
Avant de repasser la parole à Anka, j'ai une dernière petite question, moi, pour savoir si cette expérience vous a aussi apporté quelque chose à vous. Est-ce que vous avez le sentiment que de se rapprocher comme ça de votre mère à la fin de sa vie, ça vous a enrichi personnellement?
Ça m'a très enrichi parce que, comme j'ai dit, mentionné un peu il y a quelques minutes, j'ai été malade quand j'avais 12-13 ans. J'étais très malade pendant près de 2 ans. Et le traumatisme, parce qu'il y a un matin que je me suis réveillé dans un lit d'hôpital et le patient à côté de moi avait décédé. Et ça a été un traumatisme pour moi à cet âge-là. Et sans m'en rendre compte, c'est seulement quand maman est venue vivre avec moi, et puis après que ses yeux ont été... après qu'on a eu l'opération pour ses cataractes, on regardait une émission de télévision de science-fiction. Voilà. Je vais le dire, c'est Star Trek, là. Puis là-dedans, il y a un clignon. Et puis, c'était une espèce d'une autre planète. Puis il y a un front assez particulier. Puis là, regarde ça, elle dit, c'est quoi qu'il y a sur son front? Elle ne l'avait jamais vu avant. Alors, bon, patati patata. Puis, dans une autre émission, à un moment donné, il y a des serpents. Puis moi, je sors de la salle en criant, « Oh, je déteste les serpents, je déteste les serpents. » Puis là, elle dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Je sors des serpents. Elle dit, « Mais comment se fait? Je ne sais pas, j'aime pas tout ce qui est serpent. » Elle y a pensé pendant quelques jours et elle a reconstruit toute ma mémoire de mes 12 premières années. Parce qu'elle, elle s'en souvenait. Et elle se souvenait que mes frères aînés me mettaient des couleuvres dans mon T-shirt.
Ah oui, alors effectivement, ça peut être... votre mémoire avait finalement fait complètement abstraction de cette...
Alors, c'est des choses, d'avoir perdu 12 ans de sa vie, puis que ma mère reconstruise, pour moi, là, c'est un cadeau. Ça n'a pas de valeur.
Oui, parce que nous approchons la fin de l'entrevue. Je voudrais savoir si vous avez décrit les bons moments où vous avez vraiment eu la satisfaction d'être là avec votre mère.
Ah oui,
parce qu'on a évoqué des moments difficiles, mais c'est une bonne question. Est-ce que vous avez aussi des beaux moments à nous partager?
L'opération des cataractes. Ça s'est fait en deux temps. D'abord, il y a la chirurgie pour enlever les cataractes, puis ensuite, il a fallu retourner parce qu'à un moment donné, je pense que la cornée devient opaque, là, puis il faut qu'il fasse un au laser.
Ouais.
Et on quitte l'hôpital après cette opération au laser, puis elle avait ses lunettes de soleil, puis on s'en va, on retourne vers la maison qui est en vers l'est, donc on a le soleil derrière nous. Puis à un moment donné, moi, j'ai les yeux sur la route et j'entends un moment dire « Que le ciel est donc un beau bleu! » Et là, j'ai regardé et réalisé qu'elle avait enlevé ses lunettes de soleil et le médecin m'avait dit « Non, mais parce qu'on s'en allait vers l'est, bon, ben, le soleil était derrière nous, donc c'était moins pire. » Mais ça, ce moment-là, non, d'entendre un moment dire « Le bleu du ciel est éclatant. » Ça, là, encore, j'ai des frissons.
Beaucoup d'émotions.
Oui, c'est des moments de même, ou bien donc des affaires comme comment adorer les fleurs. Alors, à la maison que j'avais acheté, il y avait un grand terrain et j'ai mis des plates-bandes de fleurs. Puis les fleurs préférées, d'ailleurs, sont sur la couverture du livre, ce sont des marguerites. Et j'avais mis des marguerites là, de différentes espèces, les échinacées qui ont l'air d'une marguerite dans les tons de pourpre parce que c'est dans sa couleur préférée, les marguerites blanches, les marguerites oranges, etc. Puis j'en avais mis partout. Puis à un moment donné, après que ses jambes avaient été guéries, elle dit « J'aimerais ça qu'on aille marcher sur le gazon en arrière. » Parce que j'avais dit de ne pas y aller tout seul parce que c'était inégal. Là. Alors on est allé. Puis là encore, là, elle regardait parce que c'était après son opération pour les yeux puis les jambes étaient aussi guéries. Elle se promenait, là, puis elle arrêtait à toutes les deux, trois mètres pour dire « Ah, que c'est donc beau! Que c'est donc beau! Ah! » C'était là. Ça, c'est des moments là, que j'oublierai jamais de toute ma vie.
Jean-François, merci beaucoup de partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de professionnels avec des parents vieillissants qui l'ont trouvé très intéressant et touchante. Et bien sûr, un grand merci à la Radio Choc FM.
Eh bien, un grand merci à toi, Anka, et puis un grand merci à Jean-François Pinsonneau pour cette expérience, partager cette expérience tout à fait bourrée d'émotions, effectivement. Donc, on rappelle que si vous voulez en savoir plus sur cette belle expérience d'un fils et de sa mère, Lasting Touch, c'est le titre de cet ouvrage de Jean-François Pinsonneau. Où est-ce qu'on peut le retrouver?
Il est sur Amazon, sur Chapters Indigo.
D'accord.
Si vous êtes dans la région d'Ottawa, ils sont dans différentes boutiques.
Et nous vous invitons pour signer le livre chez Silver Door le jeudi à
2h.
2h, oui.
Jeudi
le 17.
Jeudi 17 août.
Oui.
Entendu. Il me reste à vous remercier beaucoup tous les deux. Merci en cavate à vous. Merci Jean-François Pinsonneau d'être venu dans l'émission Salle de presse. Les aînés vous informent.
Merci, ce fut mon plaisir.
On reste sur les ondes de Choc FM 105.1. Salle de presse, les aînés vous informent. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez manqué une partie de l'émission, sachez que vous pouvez en retrouver la rediffusion à 9h dimanche prochain.